Bah, quand on pense à la protection des troupeaux en montagne, on a souvent cette image un peu d'Épinal, hein. Le berger solitaire, son chien, peut-être une vieille lampe torche dans la nuit noire.
Ouais, la vision très classique, très romantique de la chose.
C'est ça, sauf que ben, depuis le 23 février 2026, la gestion du loup en France, ça ressemble plus du tout à ça. C'est presque devenu une opération tactique. On parle de fusils de haute précision, de lunettes à imagerie thermique, de tirs coordonnés.
C'est une véritable escalade, ouais. Ce qui se joue avec ce nouveau décret, c'est pas juste le sort d'un grand prédateur, c'est vraiment la redéfinition totale de notre rapport à la nature, à l'élevage et surtout à la technologie.
Exactement. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce séisme juridique qui secoue toutes nos campagnes. On a sur la table des sources qui sont, on peut le dire, explosives et ultra polarisées.
Ah bah, incandescente même.
Ouais. D'un côté, on a le fameux décret officiel, celui signé par Monique Barbu à la transition écologique et Annie Genevard à l'agriculture. C'est le texte référencé, accrochez-vous bien, JOE-2026 0224-0047-0003.
La froideur bureaucratique dans toute sa splendeur.
Voilà. Et face à ça, on a les réactions du monde associatif. Et là, c'est pas froid du tout. L'association Le Clan du Loup a publié un communiqué coup de poing. Le titre, c'est, je cite, Urgent, tiret, massacre décrété, deux points, la Macronie déclare la guerre totale aux loups.
Ouais, le ton est donné.
C'est clair. Ils parlent d'un permis d'exterminer, d'une trahison, et ils dénoncent très fortement ce qu'ils appellent le lobby des chassistes avec deux S majuscules. On a aussi des rapports des ONG Férus et de l'ASPAS, et pour ramener un peu de science pure là-dedans, on va s'appuyer sur l'étude de référence du chercheur Olivier Delagues concernant le véritable régime alimentaire du loup.
Alors attends, je t'arrête tout de suite parce qu'il faut vraiment qu'on pose un cadre strict pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y.
On manipule des documents qui transpirent la détresse. D'un côté, la détresse économique et psychologique des éleveurs, et de l'autre, la fureur absolue des militants écologistes. Notre but ici, c'est pas du tout de prendre parti.
Non, surtout pas. On n'est pas là pour dire qui a tort ou raison.
Voilà. On distribue pas les bons points. L'objectif de notre exploration, c'est de démonter la mécanique de cette nouvelle loi de 2026, d'analyser factuellement des arguments et de voir ce que la science nous dit vraiment, loin des postures idéologiques.
Tout à fait, c'est important de le rappeler. Alors, rentrons dans le vif du sujet, avec l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le clan du loup qualifie carrément un article de ce décret d'arrêt de mort juridique.
Ouais, l'article 29.
C'est ça. Et quand on le lit, c'est d'une simplicité qui fait froid dans le dos pour les défenseurs de l'environnement. Le texte dit noir sur blanc qu'à l'arrêté d'avril 2007, les mots canidé loup, canus lupus sont tout bonnement supprimés.
Supprimé de la liste des mammifères terrestres protégés, oui, c'est pas un détail, c'est énorme.
C'est un truc de fou, c'est un peu comme si, je sais pas, une œuvre d'art passait d'un coup du statut de trésor national hyper protégé à celui de bien de consommation qu'on peut jeter. Comment c'est légalement possible de rayer une espèce comme ça?
Bah, en fait, cette radiation à l'échelle française, c'est l'onde de choc d'un bouleversement international plus large. Le clan du loup et les associations comme Férus le rappellent bien. Ce décret fait suite au vote de décembre 2024 du comité permanent de la Convention de Berne.
Ah oui, le fameux vote européen.
Exactement. L'Europe a acté le déclassement du statut du loup. L'animal est passé d'une espèce strictement protégée à une espèce simplement protégée. Et ce petit glissement sémantique, ben, juridiquement, ça change tout.
Ça fait sauter le verrou?
C'est ça. Ça permet de passer d'une protection totale à ce qu'on appelle une gestion administrative. Et donc concrètement, de faciliter l'organisation de tirs et de destructions.
Et justement, sur la question des tirs, ce nouveau décret de 2026, il légalise une vraie surenchère technologique. On parlait de lunettes thermiques au début.
L'article 15, oui.
Voilà. L'article 15 autorise formellement l'utilisation de dispositifs utilisant l'intensification de lumière ou la détection thermique. Et les associations bondissent là-dessus. Le clan du loup parle d'une, je cite, « technologie de guerre mise au service de l'extermination ».
Avec des armes de catégorie C en plus, hein.
Ouais. Ils disent que la nuit, qui était le refuge naturel par excellence de cet animal nocturne, bah, c'est devenu une zone de traque. Le loup n'a plus aucune chance de se cacher.
C'est vrai que d'un point de vue éthique et biologique, ça rompt un équilibre. Le loup perd son seul bouclier naturel. Mais pour être objectif, il faut aussi comprendre la logique de l'État et des éleveurs sur ce point précis.
C'est-à-dire?
Bah, demander à un berger de faire un tir de défense en pleine nuit noire, dans le brouillard, sans aucun équipement de vision, c'est au mieux inefficace, au pur complètement dangereux.
Dangereux pour qui, le berger ?
Pour le berger, pour les chiens de protection, les fameux patous, ou même pour les brebis. Tirer à l'aveugle ou avec une pauvre lampe frontale au milieu d'un troupeau qui panique, c'est un coup à faire un carnage soi-même. Donc l'État justifie la vision thermique comme un outil de sécurité. C'est pour s'assurer que le tir est ciblé et qu'on ne blesse pas autre chose.
Ouais, je vois l'argument 3 de Massic. Mais le décret va encore plus loin dans cette logique d'efficacité létale. Il y a un point qui rend les associations dingues. Le texte permet désormais d'avoir jusqu'à 3 tireurs en simultané pour défendre un troupeau.
3 tireurs en même temps ?
Oui. Le clan du loup dit qu'à ce stade, on parle plus de défense, mais de battue organisée. Et là où ça coince énormément, c'est l'article 8.2. Cet article crée une nouvelle catégorie juridique, celle des troupeaux dits « ne pouvant être protégés ».
Ah oui, la fameuse exception.
C'est ça. Sous prétexte que le terrain est trop compliqué ou pour des raisons économiques, on dispense l'éleveur de mettre en place des protections. Pire, les articles 5 et 20 autorisent ce qu'on appelle les tirs de prélèvement.
Donc là, on parle d'abattage pur et simple pour faire baisser la population. Pas juste d'effarouchement.
Exactement, le culling. Et ces tirs sont autorisés sur des élevages non protégés, à la seule condition que l'éleveur signe un papier disant qu'il s'engage à se protéger dans les 12 mois.
Un simple engagement futur, ouais.
Quelqu'un qui écoute ça de loin, il pourrait se dire « Attends, c'est pas hyper paradoxal. On utilise l'argent public pour tuer un prédateur sauvage sur un troupeau sans clôture, juste parce que le gars a promis d'en mettre une l'année prochaine. Le clan du loup appelle ça l'hypocrisie du pastoralisme assisté. Est-ce que c'est pas, en quelque sorte, récompenser la négligence ?
C'est exactement le cœur de la critique associative. Eux, ils sont, comme ils le disent, 100% loups et opposés à tout tir létal. Ils exigent la protection totale des troupeaux d'abord.
Ce qui semble logique.
Sauf que, si on regarde les données du ministère qui ont motivé ce décret, les chiffres avancés dans le préambule sont lourds. On parle de 11 000 animaux victimes de prédation sur une année.
11 000, c'est énorme.
C'est massif. Et financièrement, c'est 40 millions d'euros d'aide publique injectée pour la protection, plus 3,7 millions d'euros d'indemnisation pour les bêtes tuées. L'argument du gouvernement, il est là. On face à une détresse psychologique et économique majeure du pastoralisme.
Mais pourquoi ils ne se protègent pas tous, alors ?
Parce que dans certains secteurs des Alpes ou des Pyrénées, la topographie rend la chose presque impossible. Va installer des kilomètres de clôture électrique de 2 mètres de haut sur des pentes rocheuses à 45 degrés. C'est physiquement et économiquement intenable pour certains bergers. D'où la création de cette catégorie non protégeable.
D'accord, je comprends mieux le blocage terrain. Mais ces 11 000 moutons tués, c'est le chiffre officiel qui justifie tout ce massacre décrété, selon les termes de l'association.
Oui.
Or, c'est là qu'on doit convoquer la science. On quitte la politique pour la biologie. L'étude d'Olivier Delague pose une question super simple, mais fondamentale. Qui mange vraiment les moutons ?
Et la réponse est très inconfortable pour les autorités.
Bah oui, parce que Delague démontre que les proies préférées du loup, c'est absolument pas le mouton. C'est les ongulés sauvages, le chamois, le chevreuil, le cerf.
C'est un prédateur opportuniste, sauvage. Il est fait pour chasser ce type de gibier.
Mais alors, s'il préfère le chamois, comment on explique ces scènes d'horreur où un éleveur retrouve 40 brebis égorgées au petit matin ?
C'est ce qu'on appelle en biologie le surplus killing, ou la mort excédentaire. Ça n'a rien à voir avec la cruauté, c'est purement instinctif.
Explique-nous ça.
Andro, quand un loup chasse un chamois en montagne, c'est hyper difficile. Ça demande une énergie folle. Le chamois fuit, il grimpe sur des rochers inaccessibles. Le loup arrive peut-être à attraper le plus faible, et basta. La chasse est finie.
Ok, la proie s'échappe.
Mais quand ce même loup entre dans un enclos avec des brebis, le comportement de la proie n'a plus rien de naturel. La brebis domestique ne sait plus fuir de façon efficace, elle panique, elle court en cercle, elle vient buter contre les clôtures.
Elle reste dans la zone de danger, quoi.
Exactement. Et ce mouvement permanent de panique, ça agit comme un stimulus neurologique continu sur le loup. Son instinct de prédateur reste activé sur « on » tant que ça bouge. Il va attaquer mécaniquement, encore et encore, bien au-delà de ses besoins alimentaires. L'environnement clos transforme une chasse naturelle en un carnage automatisé.
C'est dingue. C'est vraiment l'artificialisation du milieu, la clôture elle-même, qui provoque ce massacre à grande échelle.
En grande partie, oui.
Mais l'étude de Delague, elle lève un autre lièvre. Et celui-là, il remet carrément en question les fameux chiffres du gouvernement. L'étude s'intéresse à la manière dont l'administration attribue une attaque au loup.
La fameuse méthode d'identification.
Ouais. Souvent, ça se fait via l'analyse des excréments trouvés près des attaques. Et Delague prouve que si on se contente d'une identification visuelle, genre l'agent regarde la crotte et voit des poils de mouton, bah on surestime systématiquement la culpabilité du loup.
C'est le biais majeur des constats visuels, ouais.
Parce que quand Delegue a pris ces mêmes échantillons pour faire des analyses génétiques poussées en laboratoire, pour chercher l'ADN dans les cellules intestinales, les résultats ont été choquants. Une énorme partie de ces attaques était en fait le fait de chiens.
Les chiens errants.
Ou les chiens divagants.
C'est ça.
Et l'association Le Clan du Loup dénonce cette hypocrisie. Ils disent que l'autre grand prédateur, le chien errant, il est commodément oublié par les ministères pour faire du loup le bouc émissaire parfait.
C'est un vrai problème scientifique et politique. Sur le terrain, un grand chien et un loup, ça laisse le même type de traces, la même taille d'excréments. Si tu ne fais pas de séquençage ADN, tu ne peux pas savoir. Et un chien mal nourri ou juste un chien de compagnie laissé en liberté la nuit, ça fait des ravages hallucinants dans un troupeau.
Mais du coup, pourquoi cette fixette exclusive sur le loup? Si la science prouve que les chiens faussent complètement les stats, pourquoi on signe des décrets avec imagerie thermique uniquement contre le loup?
C'est purement symbolique et sociétal. Le loup, c'est l'incarnation de la nature sauvage qui échappe à notre contrôle. Il cristallise des peurs anciennes.
Le grand méchant loup, quoi.
C'est un peu ça. Politiquement, c'est beaucoup plus facile, et ça rapporte plus de voix, de se poser en protecteur face à l'envahisseur sauvage. Si tu dois légiférer de manière agressive contre les chiens divagants, tu t'attaques à qui?
Bah aux voisins, aux électeurs.
Exactement. Tu t'attaques aux citoyens ordinaires, à des problèmes de police municipale, c'est pas glamour et ça fâche les propriétaires de chiens. Donc le loup prend pour tout le monde.
C'est ouf. Et cette logique de contrôle territorial, de l'envahisseur, elle se voit super bien dans les articles 25 et 26 du décret, les fameuses zones d'expansion.
Ah oui, la géographie de la loi.
Le texte permet au préfet de délimiter des secteurs où les loups essayent de s'installer. Et dans ces zones, si l'État estime que protéger les troupeaux, c'est trop dur, les tire-laitos sont autorisés, je cite les termes exacts de la loi, sans autre condition.
Une carte blanche sur certains territoires.
Mais c'est un permis de tirer à vue. Férus et le clan du loup dénoncent des zones de non-droit pour la faune. C'est comme si on traçait des lignes de front invisibles sur la carte de France. On dit au loup, bah, écoute, ici, dans ce parc, tu as le droit de vivre, mais si tu fais un mètre de plus vers la plaine, c'est l'abattage direct.
Et biologiquement, cette idée de mur invisible, c'est une catastrophe à long terme pour l'espèce.
Pourquoi?
Parce qu'un grand prédateur a un besoin vital de se disperser. Les jeunes doivent quitter la meute pour coloniser de nouveaux territoires et rencontrer d'autres individus. C'est ce qui assure le brassard génétique.
Sinon, ils se reproduisent entre eux, c'est la consanguinité.
Voilà. Si on empêche géographiquement la dispersion, en abattant ceux qui franchissent la ligne, on isole les populations. Les meutes s'appauvrissent génétiquement. Les associations rappellent d'ailleurs que la population lupine stagne, voire régresse en France depuis 2 ans selon leur bilan. En voulant sanctuariser l'activité humaine en cloisonnant la nature, on menace la viabilité même de l'espèce. Et on a d'ailleurs les mêmes peurs pour le lynx en ce moment.
Ça remet tellement les choses en perspective. En fait, on voit comment un simple texte administratif, ce décret de février 2026, il transforme des concepts un peu abstraits de droit international ou de biologie en réalité hyper concrète et létale sur le terrain.
Totalement. C'est le choc frontal entre le développement de notre pastoralisme et les dynamiques naturelles.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est fou de réaliser que notre environnement de montagne, nos alpages, ils sont pas juste façonnés par le climat. Ils sont littéralement sculptés par des batailles de mots, de décrets, de lobbies et de chiffres parfois biaisés.
Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice, mais indispensable.
Vas-y, je t'écoute.
On a beaucoup parlé de technologie aujourd'hui. L'imagerie thermique, le séquençage ADN, les colliers GPS. Actuellement, on met toute cette puissance d'innovation au service de la preuve de culpabilité ou de la traque létale. On utilise une technologie du 21e siècle pour perfectionner une éradication digne du 19e.
C'est clair, on optimise la mort.
Mais imaginons un instant qu'on inverse la logique. Si l'humanité décidait de mettre cette même force de frappe technologique, ces millions d'euros, exclusivement au service de la coexistence non létale.
Ah, tu veux dire sans jamais tirer.
Voilà. Pourrions-nous développer, je sais pas, des champs de fréquences acoustiques, des barrières olfactives ou des systèmes gérés par intelligence artificielle qui rendraient nos troupeaux littéralement invisibles ou inaccessibles pour les sens du loup?
Une sorte de bouclier virtuel, en fait.
C'est ça. Sans qu'aucune balle ne soit tirée. La vraie question pour l'avenir, c'est de savoir si notre technologie va nous permettre de réconcilier enfin l'homme et le monde sauvage, ou si elle va juste servir à creuser un peu plus le fossé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à chasser.
Une sacrée question à méditer la prochaine fois qu'on regardera les sommets étoilés. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration complexe et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.